Chapitre 3. Les captifs étaient coupés du monde extérieur, et les journées s'écoulaient avec une lenteur exaspérante. Puis ils découvrirent la précision de l'horloge interne des octopodes, en lorgnant à l'occasion la montre du garde qui apportait leur repas. Ils réussirent à convaincre Archie de renoncer provisoirement à ses terres, Woden, Feng et Nye, et d'adopter les unités de mesure du temps établies par les hommes. Nikki lui demandait l'heure à tout instant. Cela permit à la fillette et à son grand-père d'apprendre à reconnaître les suites de couleurs correspondant au petit nombre. Et leur conversation régulière offrait à Richard l'opportunité d'améliorer sa connaissance du langage de l'extraterrestre. Il ne lisait pas les chapelets de bandes colorées avec autant d'aisance que sa fille, mais il put au bout d'une semaine s'entretenir avec lui sans devoir demander à tout bout de champ à Ali de lui servir d'interprète. Les humains dormaient sur des nattes et l'octopode se roulait en boule dans un coin pendant les quelques heures qu'il consacrait au sommeil. Richard fit remarquer à un gardien qu'ils avaient besoin de faire leur toilette et on leur apporta une grande bassine. Prendre un bain les revigora et leur insuffla un peu d'optimisme. « Ils ne pourront garder éternellement le secret », affirma Richard. « Les soldats nous ont vus. Ils parleront d'Archie en dépit des consignes de Nakamura. » « On viendra bientôt nous chercher », surenchérit gaiement sa fille. Mais cet espoir s'effondra après 2 semaines de captivité. Nikki était devenue insupportable. Elle se plaignait constamment de s'ennuyer. Pour la distraire, Archie entreprit de lui raconter les légendes de son peuple.
« À quoi ressemblaient les précurseurs ?»
lui demanda-t-elle un jour.
« Ce n'est pas précisé, » répondit l'octopode. « Tu peux te les représenter au gré de ton imagination. »«
C'est une histoire vraie ?»
s'enquit-elle à une autre occasion.
« Vous n'auriez jamais quitté votre planète s'il n'avait pas été dans l'espace avant vous. »
« Nous ne sommes censés étendre nos connaissances par nous-mêmes que depuis 50 millénaires. »
Une nuit, après que Nikki se fut endormie, Richard et Ali l'interrogèrent sur les origines de tous ces récits.
« Il y a 10 000 de vos années qu'ils circulent. La plupart figurent dans les premières archives de notre espèce. Les opinions sur leur authenticité sont partagées. Le docteur Bleu pense qu'un maître conteur alternatif au génie méconnu a enjolivé des faits au demeurant réels. »
Et en réponse à une autre question,
« Si ces histoires sont dignes de foi, nous étions à l'origine des créatures marines à la conscience et à l'intelligence peu développées. Les précurseurs ont découvert notre potentiel en établissant notre génome, qu'ils ont modifié au fil des générations jusqu'à la grande calamité.
Que sont-ils devenus ?
Demanda Ali.
La plupart ont dû périr lors du cataclysme. On raconte que leurs avant-postes des étoiles les plus proches ont subsisté plusieurs siècles avant de disparaître à leur tour. Selon une autre version, leur civilisation a prospéré dans d'autres systèmes et ils sont à présent l'espèce dominante de la galaxie. La seule certitude, c'est que les continents de notre monde d'origine sont restés pendant très longtemps inhabitables et qu'il n'y avait plus un seul précurseur en vie quand nos semblables se sont aventurés hors des flots.
Chaque matin, avant l'éveil de Nikki et d'Ali, Archie et Richard abordaient de nombreux thèmes. L'octopode lisait désormais couramment sur les lèvres, et l'homme maîtrisait si bien la lecture des couleurs qu'il ne lui demandait que rarement de répéter une phrase. Les sujets étaient principalement scientifiques. L'histoire de l'évolution des connaissances humaines fascinait l'extraterrestre. Il voulait savoir quelles découvertes avaient été faites, à quel moment et par qui, et quelle hypothèse avait alors été invalidée. C'est donc la guerre qui a accéléré le développement de l'aéronautique et de la physique nucléaire, dit-il un matin. J'ai des difficultés à le croire, tant notre cas est différent. Nous avons reçu le savoir en même temps que la conscience. Nos créateurs et mentors avaient déjà trouvé une explication à chaque chose, et il nous suffisait d'apprendre ce qu'ils nous enseignaient. Voilà pourquoi nous ignorons tout des tâtonnements de la recherche scientifique. Sous leur tutelle, nous avons fait un bond de plusieurs centaines de millions d'années sur le plan de l'évolution. Est-il utile de préciser que mon peuple n'était pas prêt à vivre par lui-même quand eut lieu la grande calamité? Nos ancêtres entreprirent alors de répertorier tous les enseignements des précurseurs dont ils gardaient le souvenir. Privés des règles d'éthique de leurs bienfaiteurs, mes semblables régressèrent socialement. Ils furent pendant longtemps menacés d'extinction. Un matin, Richard déclara « N'aurais jamais cru qu'il existait une espèce spatio-pérégrine qui n'avait pas découvert par elle-même les lois de la gravité et les principes fondamentaux de la physique. Ça confond l'imagination. Mais vos explications me permettent de comprendre. Si le peuple A, techniquement avancé, rencontre le peuple B, intelligent mais peu évolué en ce domaine, il est normal que ce dernier gravisse d'un bond les échelons intermédiaires. Notre situation est particulière, mais il convient de préciser que la plupart des espèces n'ont pas atteint le stade de la spatio-pérégrination par elles-mêmes. Prenons le cas des aviens et des céciles. Ils vivaient en symbiose dans un système stellaire proche du nôtre depuis des millénaires, lorsqu'ils ont reçu la première visite des précurseurs. Et ils n'auraient sans doute jamais voyagé dans l'espace si nos bienfaiteurs ne leur avaient pas apporté la technologie qui permet de tels déplacements. Si nos légendes sont dignes de foi, les précurseurs ont quitté notre monde commun bien avant que nous n'accédions à la conscience. À l'époque, nous ne pouvions même pas imaginer ce qu'était une planète, et je ne parlerai pas du néant de l'espace. Nos voisins plus évolués ont façonné notre destin. Ils nous ont transformés grâce à leur maîtrise du génie génétique. Ils nous ont donné un esprit et leur savoir. Sans eux, notre société n'aurait jamais existé. Ces conversations matinales créèrent entre eux des liens profonds. Privés de distraction, ils partageaient un profond amour de la connaissance. Nikki s'éveillait avant Ali. Après avoir pris son petit déjeuner, la fillette suivait les cours de ses trois professeurs. Elle lisait, apprenait l'arithmétique, écoutait son grand-père lui parler des sciences et de la nature. Archie lui donnait des leçons de morale et d'éthique. Elle apprenait également l'alphabet des octopodes et des phrases simples. Elle était douée pour le langage des couleurs, un fait que les adultes attribuaient à ses gènes altérés autant qu'à son intelligence. Dans le cadre de leur éducation, nos juvéniles participent à de nombreuses discussions portant sur des problèmes moraux, dit un jour Archie. Des situations réelles sont prises comme exemple et nous les invitons à exprimer leur avis. Pour les sensibiliser au concept d'optimisation ? Demanda Richard. Pas vraiment. Nous souhaitons avant tout les préparer à affronter la vie et à côtoyer leurs semblables. Nous les encourageons à établir un code de valeurs personnelles. Nous pensons que la connaissance ne peut exister dans le vide. C'est seulement quand elle fait partie intégrante d'un mode de vie qu'elle acquiert une véritable signification. Archie posait à Nikki des questions simples. Le mensonge, l'équité, les préjugés et l'égoïsme firent l'objet de 8 leçons. La fillette trouvait souvent des réponses dans son expérience personnelle.
Galilée veut toujours faire ce qui lui plaît,
dit-elle un jour.
Ses désirs passent avant tout le reste. Kepler est différent. Je n'ai jamais pleuré à cause de lui.
L'après-midi, pendant qu'elle faisait la sieste, les adultes répertoriaient les similitudes et les différences entre leurs espèces. Lors d'un débat sur le traitement réservé aux éléments asociaux d'une communauté, Ali déclara
« Votre société est moins tolérante que la nôtre. Vous avez établi les normes d'un mode de vie idéal. Les individus qui y dérogent ne sont pas à proprement parler frappés d'ostracisme, mais ils sont exclus des activités les plus gratifiantes et éliminés bien avant les autres. Nos règles sont définies avec plus de précision que les vôtres, rétorqua Archie. Nous connaissons les conséquences de nos choix. Soit dit en passant, le domaine de l'alternative n'est pas une de vos prisons. C'est un lieu où ceux qui le souhaitent peuvent échapper à la réglementation et à l'optimisation nécessaire à la prospérité de la colonie. Certains alternatifs s'y épanouissent et y vivent jusqu'à un âge avancé. D'après ce que j'ai pu constater, vous refusez d'admettre que liberté individuelle et bien-être collectif sont contradictoires. Il convient pourtant de trouver un juste équilibre entre les deux, faute de quoi nul groupe ne peut survivre, et encore moins prospérer. Prenons par exemple la répartition des ressources. Est-il logique que quelques privilégiés accumulent tant de richesses alors que l'ensemble de la population manque de nourriture, de vêtements et d'autres produits de première nécessité?
Archie n'éludait plus les questions comme à l'époque où il vivait dans la cité d'Émeraude. Il parlait librement des divers aspects de sa civilisation. Avait-il conscience d'adresser des messages aux gardes qui devaient les surveiller? Mais que pouvaient comprendre des hommes qui ne connaissaient pas le langage des couleurs? Non, il savait lui aussi que ses jours étaient comptés, et il essayait de faire en sorte qu'ils soient intéressants et utiles. Un soir, il annonça à Richard et Ali qu'il avait quelque chose de personnel à leur dire.
« Je ne voudrais pas vous inquiéter, »
fit-il.
« Mais j'ai pratiquement consommé toute la réserve d'inhibiteurs de ma poche supérieure. Si cette situation se prolonge, je subirai ma mutation sexuelle. Je crains de devenir agressif et asocial. J'espère que je ne... »«
Ne vous inquiétez pas pour ça, » répondit Richard en riant. « J'ai déjà côtoyé des adolescents. » Un matin, un garde vint ordonner à Ali de se préparer à le suivre avec sa fille.
« Quand ?»
demanda-t-elle. « Dans 10 minutes. »«
Où irons-nous ?»
L'homme remonta l'escalier sans se donner la peine de répondre. Pendant qu'Ali faisait sa toilette et celle de Nikki, ils parlèrent de ce qu'elle devait dire à Nakamura ou à tout autre responsable de la colonie. Tu devras naturellement préciser que les octopodes sont pacifiques, mais nous ne pourrons empêcher cette guerre sans convaincre le tyran qu'il n'a aucune chance de remporter la victoire, lui rappela son père. Il faudra insister sur le fait que ces extraterrestres ont une technologie bien supérieure à la nôtre.
Et si on me demande de fournir des détails?
Tu n'es pas censé les connaître. Tu n'auras qu'à répondre que c'est à moi qu'il faut s'adresser. Un véhicule électrique emmena Ali et Nikki à l'hôpital de Central City. Elles se retrouvèrent dans un cabinet de consultation où elles attendirent 10 bonnes minutes avant de voir entrer le docteur Robert Turner. Il faisait désormais bien plus que son âge.
« Nikki !»
dit-il en s'accroupissant devant sa fille.
« Viens embrasser ton papa. »
L'enfant hésita puis courut vers son père, qui la prit dans ses bras et tourna sur lui-même.
« Je suis si content de te revoir. »
Ali se leva. Robert posa Nikki et la regarda.
« Comment vas-tu ? »
lui demanda-t-il.
« Très bien, »
déclara-t-elle, gênée.
« Et toi ? » ?»«
Je ne peux pas me plaindre. »
Ils s'étreignirent. Elle voulut l'embrasser tendrement, mais il se détourna sitôt que leurs lèvres s'effleurèrent.
« Qu'as-tu, Robert ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»«
Le surmenage, comme toujours. »
« Déshabille-toi et allonge-toi. Je veux m'assurer que tu n'as rien. » « Tout de suite ? Sans même prendre le temps de nous raconter ce que nous avons fait pendant ces mois de séparation ?»«
Désolé, Ali, mais je suis débordé. Nous manquons de personnel à l'hôpital. J'ai convaincu les autorités de te libérer en leur promettant. »
Elle fit le tour du lit pour prendre ses mains dans les siennes.
« Je t'aime, Robert. Nous ne nous sommes pas vus depuis plus d'un an. Tu pourrais tout de même t'accorder une minute pour... »
Elle vit des larmes briller dans ses yeux.
« Qu'y a-t-il ? Dis-le-moi. »
« C'est à toi qu'il faut poser cette question. »
fit-il sèchement.
Pourquoi as-tu déclaré aux soldats que tu avais suivi ces monstres de ton plein gré et qu'ils étaient nos amis ?
Tu m'as ridiculisé. Tous les citoyens du Nouvel Éden m'ont entendu décrire ton rapt à la télévision. »
Ali avait reculé, surprise par sa colère.
« J'ai apporté ces précisions pour tenter de préserver la paix, »
dit-elle.
« Je ne pouvais pas me douter que tu te sentirais blessé par mes propos. »
Les octopodes t'ont fait subir un lavage de cerveau. Je l'ai su dès que les hommes de Nakamura m'ont montré les rapports. Ils t'ont fait perdre tout contact avec la réalité. »
Nikki pleurnichait depuis que son père avait haussé la voix. Elle savait qu'il se passait quelque chose, même si elle ne comprenait pas quoi. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes et agrippa la jambe de sa mère.
« Tout va bien, Nikki. »
Quand elle releva les yeux, Ali vit que son mari avait sorti une coiffe transparente d'un tiroir.
« Tu veux me faire un électroencéphalogramme ?»«
J'ai mes raisons, » répliqua-t-il. « Mes tracés sont anormaux depuis mon retour. Nul ne peut expliquer ce phénomène. Le neurologue affirme qu'il n'a jamais vu un changement aussi radical dans l'activité cérébrale d'un individu, sauf en cas de grave traumatisme crânien.
Robert, les octopodes ont placé un verrou microbiologique sur ta mémoire pour t'empêcher de raconter ce que tu sais sur eux. C'est certainement l'explication de cette anomalie. »
Il la fixa longuement, sans rien dire.
Ils t'ont enlevé et ils ont trafiqué mon cerveau. Qui sait ce qu'ils ont fait à notre fille? Comment peux-tu prendre leur défense?
L'examen ne révéla aucun dysfonctionnement. Robert parut soulagé et il lui annonça que Nakamura était disposé à faire lever les charges retenues contre elle. Bien qu'assignée à résidence, elle pourrait rentrer chez eux avec Nikki si elle fournissait aux autorités des informations sur les octopodes. Après un bref instant de réflexion, elle accepta. Son mari lui sourit et l'étreignit.
« Parfait, » dit-il. « Tu commenceras demain. Je vais leur annoncer la bonne nouvelle. »
Pendant le trajet en Autruchosaure, Richard l'avait averti que le tyran voudrait certainement se servir d'elle pour justifier cette guerre. Elle savait qu'elle s'engageait dans une voie dangereuse.
« Je dois être prudente, »
se dit-elle en prenant un bain chaud.
« Je dois veiller à ne rien dire qui puisse porter préjudice à Richard ou à Archie, ou qui offre aux troupes humaines le moindre avantage si le conflit est inévitable. »
Nikki entra dans la salle de bain pour lui demander
« Quand papa va-t-il rentrer à la maison ?»«
Très tard, ma chérie. Tu seras couchée à son retour. »
J'aime bien ma chambre, maman. Elle est plus jolie que cette cave.
Tu m'en vois ravi,
répondit Ali. La fillette sourit et la laissa. Elle inspira à plein poumon.
Tout ce que nous avons fait n'aurait servi à rien si j'avais refusé. Il nous aurait renvoyés dans ce sous-sol.